19h-20h. Et les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Il est 18h30. Bonsoir, bonsoir exceptionnellement, vous le savez, et je vous le disais en permanence ici même. Hein, les informés habituellement, c'est 19h-20h. Mais lorsqu'on parlera des présidentielles et lorsque, évidemment, nous allons commencer à recevoir les différents candidats à cette présidentielle 2022, eh bien l'émission démarrera un peu plus tôt, 18h30, 20h, c'est le dispositif pour cette émission spéciale présidentielle 2022. Eh bien, bienvenue. Quel est le programme, quel est le menu que je vous propose? Alors tout d'abord, le premier candidat qui se prête au jeu, dans le cadre de ses informés, émission spéciale présidentielle 2022, Yannick Jadot, le candidat écolo qui vient justement à la fois se prêter à l'échange avec nos débatteurs ici, qui sont évidemment connus par vous-même, les auditeurs partout en France, sur différents sujets, vous le verrez, de la santé en passant par la géopolitique, l'entrepreneuriat et puis surtout les quartiers populaires. Alors, bien sûr que nous ferons réagir notre candidat à l'actualité récente, hein, à la fois nous irons en direction Romainville, mais surtout cette première, 60 ans après cette tragédie où le chef de l'État, le premier président, qui rend hommage aux 9 personnes tuées ce fameux 8 février 1962. Et puis vous 01 53 48 3000. Le standard est ouvert dès maintenant jusqu'à 20h. Giovanni vous attend au standard, évidemment pour vous accueillir, pour interpeller le candidat Yannick Jadot qui répondra, bien sûr, en toute liberté d'expression, vous le savez plus que jamais ici, à vos questions, à vos interrogations, et puis surtout à vos propositions aussi notamment. Tout est le bienvenu partout en France, je vous attendrai tout à l'heure. Eh bien les informés, c'est parti, et plus que jamais en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Eh bien c'est parti pour l'invité, et présidentiel 2022.
Les informés, l'interview.
Yannick Jadot, le candidat écologiste. Vous êtes le premier candidat à venir ici assister donc à cette émission spéciale présidentielle 2022.
J'espère y participer.
Ah, vous allez y assister.
Parce que
vous
si c'est juste pour y assister, je peux écouter de la maison. Hein.
Là, il a droit à une clochette. Voilà, il a droit à une clochette. C'est parti. Et vous démarrez fort, hein, c'est bien. Dis donc, ça va fort avec vous. Yannick Jadot, bonsoir.
Bonsoir.
Bonjour. Comment ça va?
Très bien, et vous?
Dans quel état d'esprit vous êtes là? Je vois que vous êtes en forme. Hein.
Je suis combatif, vous savez, j'arrive juste de Rennes. On a fait un très beau meeting sur la place Hoche de Rennes, parce qu'on veut justement mettre la politique sur la place publique.
Qu'est-ce
on veut
que
mettre la politique dans la rue. On veut que les Françaises et les Français, dont on sait qu'ils ne sont pas encore totalement rentrés dans la campagne présidentielle, s'emparent de cette campagne, parce que ce qui s'y joue, c'est notre présence, c'est notre avenir. Il s'y joue des choses essentielles, et qu'il est temps qu'on rentre dans la campagne et qu'on sorte des débats nauséabonds qui, je pense, désespèrent tout le monde. En
franchement,
vrai.
Yannick Jadot, dites-le-moi clairement, est-ce que vous restez le candidat écologiste aujourd'hui? Est-ce que ça a du sens?
Plus que jamais.
Je pose la question, parce
plus que jamais.
Certains se posent la question.
Mais notamment ceux qui considèrent que le dérèglement climatique n'existe pas vraiment, ou que c'est pas vraiment urgent, que la pollution de l'air ne tue pas 100 000 personnes dans notre pays chaque année, que l'environnement est pas détruit par les pesticides ou nos organismes contaminés. Donc on peut, vous savez, moi je me balade partout, je vois des cancers pédiatriques, et c'est toujours étonnant l'explosion des cancers pédiatriques.
Ah ouais. Vous serez face à un médecin tout à l'heure.
Non, mais
justement,
les grands soupçons sont quand même sur les pollutions environnementales.
Ah.
On a une pollution dioxine avec l'incinérateur d'Ivry. Est-ce qu'à un moment donné, on s'occupe des choses sérieuses, ou on débat pour réécrire notre histoire, ou on débat pour on cherche des boucs émissaires à tous nos problèmes? Moi, je veux chercher des solutions. On a des solutions. Je veux proposer des solutions qui sont les grands sujets, le climat, la biodiversité, la justice sociale, la lutte contre les discriminations, la démocratie.
Pourquoi ça prend pas forme?
Mais parce que la campagne n'a pas démarré. La campagne est en train de démarrer. Vous savez, de toute façon, regardez les sondages. À chaque élection, ils se plantent. À chaque élection, ils se plantent. Et le lendemain, tous les médias, vous compris maintenant, vous dites, regardez les sondages. Attends, soit ils se plantent et on arrête un peu, on les met de côté, soit ils disent la vérité et à ce moment-là, on ne serait pas dans cette situation aujourd'hui.
Vous savez pourquoi?
Et vous savez, à chaque fois, c'est pour les écolos, ça a été le cas aux européennes. le jour même de l'élection, je recevais les sondages confidentiels, parce qu'on n'a pas le droit de publier les sondages le jour de l'élection. Ils me mettaient 5 à 6 points derrière le vote qu'on a fait. Ça a été la même chose au municipal.
Qu'est-ce que vous voulez nous faire dire par là? Que les sondages sont bidons?
Je veux vous faire dire qu'il y en a assez.
Est-ce que les sondages sont bidons?
Il y en a, je pense qu'ils se plantent aujourd'hui. Je pense qu'il y a des raisons. Il y a beaucoup de confusion politique aujourd'hui. Donc je pense que les Françaises et les Français ne savent pas forcément comment ils vont voter. D'ailleurs, beaucoup disent aujourd'hui, quand on est dans la rue, on ne sait pas encore pour qui on va voter. Donc ayons ce débat, projet contre projet. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de répondre aux difficultés des Français.
Alors justement,
c'est quoi leur pouvoir d'achat?
Les dépenses
de carburant, les dépenses de chauffage, l'alimentation, c'est ça qui compte.
Mais bien sûr qu'on va en parler. Vous savez, vous avez parlé des Européennes.
Ouais.
D'accord. Yannick Jadot. Ma question n'est pas sortie comme ça, évidemment, de nulle part. Moi, je veux comprendre, Yannick Jadot, pour quelle raison vous avez parlé des Européennes. Où est passée cette fameuse vague écolo?
Mais
vous aviez attendez, vous aviez la cote partout.
Mais
on ne parlait que de Yannick Jadot et de l'écologie. Je vous pose la question de façon cash.
On en a parlé une fois le résultat obtenu.
Non. Est-ce que c'est pas l'arrivée d'Éric Zemmour dans le paysage politique qui vous a secoué? Parce que vous avez l'impression, je vous pose clairement la question, est-ce que vous n'avez pas loupé le wagon?
Ah ben si c'est pour monter dans le train de Zemmour, non merci.
Non, je ne parle pas du train de Zemmour.
Parce que du paysage politique présidentiel. Mais vous savez, c'est vachement plus facile aujourd'hui, dans le paysage, pour faire le buzz, de dire les Arabes dehors, de dire tous nos problèmes, tous les problèmes, depuis le pouvoir d'achat jusqu'à l'Ukraine, tous les problèmes, c'est à cause de l'islam. Ah, c'est facile, vous faites le buzz. Sauf que ça résout rien. Sauf que ça divise la société. Moi, je suis pas là pour réécrire l'histoire en essayant de se réconcilier avec la France qui a perdu.
Vous voulez dire qu'Éric Zemmour s'appuie sur les Arabes et l'islam?
En dehors de ça,
il a pas de programme.
Bah non. Puisqu'il dit matin, midi et soir, bien sûr, je peux parler de tout. Mais le problème, c'est le suicide français. Et qui suicide la France? Ce sont les musulmans. Eh bien, c'est sûr que ça fait le buzz, mais est-ce que ça fait avancer le pays? Est-ce que quand il réconcilie la France de l'OS, il réconcilie la France de Pétain, il réconcilie la France antisémite, eh bien, cette France-là, c'est pas la mienne. Il veut réécrire le passé, moi j'ai la soif d'écrire l'avenir. Il porte en permanence des pulsions de mort, des pulsions de haine, des pulsions de rejet. Eh bien, moi, je porte des pulsions de vie, des pulsions de fraternité.
Alors, pourquoi il a la cote? Y compris dans les quartiers populaires.
Eh ben écoutez, parce que peut-être que il apparaît différent politiquement. Mais enfin, faut quand même s'interroger. Un type qui aujourd'hui, qu'est-ce qu'il veut supprimer? Il veut supprimer la loi SRU. Il veut supprimer les logements sociaux.
Alors comment vous comptez vous inscrire, vous, Yannick Jadot, dans cette campagne?
Nous, on va parler de ce qui compte. Et à un moment donné, je fais confiance aux Françaises et aux Français de pas simplement entendre celui qui vocifère le plus, celui qui trouve le bouc émissaire. Je veux pas être dans cette course au racisme, à l'antisémitisme et au révisionnisme. Moi, je fais confiance aux Français. À un moment donné, ils vont regarder qui s'occupe d'eux. Qui a des propositions sérieuses? Qui les a laissées dans la mouise sur le pouvoir d'achat et qui apporte des réponses? Qui prend en compte le dérèglement climatique qui crée les canicules, qui fait qu'on étouffe dans nos appartements? Qui prend en compte l'effondrement de la biodiversité qui fait que on est en train de perdre tous nos insectes, nos oiseaux et nos pollinisateurs? Alors, dans les campagnes, qui prend en compte la pollution de l'air dont vous parliez des quartiers populaires sont les premières victimes de la pollution de l'air? Eh ben nous, on apporte des réponses, on met pas les problèmes sous le tapis.
Alors justement, vous savez, il y a quelques jours, à Romainville, en Seine-Saint-Denis, s'est tenue, alors paraît-il, une réunion totalement secrète, en toute discrétion. Vous allez me dire si c'est vrai ou pas. Cette réunion secrète, c'est vous et Christiane Taubira. Qu'est-ce que vous vous êtes dit?
Ah non, c'était ni Christiane Taubira ni moi. C'était l'équipe de Christiane Taubira qui a voulu nous rencontrer en urgence. Nous, on est courtois. On a répondu à cette invitation. Probablement, ils ont un peu de fébrilité dans leur campagne. Nous, on est très tranquille.
Qu'est-ce que vous
prévoyez? On a discuté. Et puis, voilà.
Il y a des tractations en vue?
Mais non, il n'y a pas de tractation aucune. On leur a simplement rappelé que, en 2022, quand on a le dérèglement climatique qui nous percute, quand on a les injustices sociales partout et la démocratie qui part en quenouille, eh ben, on leur a dit qu'il faut un projet écologiste. Nous, ça fait un an qu'on y travaille. Il faut une candidature écologiste et que, évidemment, s'ils voulaient nous rejoindre, ils seraient les bienvenus.
Donc, Christiane Taubira pourrait vous rejoindre?
Ah, mais c'est son choix. Posez-lui la question.
Mais vous, que vous dites quoi ?
Mais moi, j'ai les bras grands ouverts. J'ai les bras grands ouverts sur toutes celles et tous ceux qui veulent une alternative, de l'enthousiasme dans ce pays, qui veulent qu'on s'occupe de notre jeunesse, qui fait la queue pour aller à la soupe populaire et à attraper un repas gratuit. Les gens qui... les 12 millions de Français qui n'arrivent pas à se chauffer cet hiver correctement, avec les gamins qui attrapent les maladies. On continue à faire semblant ou on résout les problèmes ? Et ben moi, mon objectif, c'est de résoudre les problèmes.
01 53 48 3000, c'est la première pause pub. Justement, on la lance, ça va durer quelques minutes. Yannick Jadot, pardonnez-moi, le candidat écologiste est avec nous, vous pouvez l'interpeller. Le standard est ouvert, 01 53 48 3000, toutes les questions évidemment. Interpellez donc le premier candidat qu'on reçoit ici même. À tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, Les Informés avec Adil Farkan.
18h47 précisément, dans cette émission spéciale présidentielle des Informés. Le premier candidat a évidemment accepté notre invitation, Yannick Jadot, le candidat écologiste. 01 53 48 3000, le standard est ouvert partout en France. Je vous attends évidemment pour venir interpeller le candidat Yannick Jadot. Alors, avant d'aller au standard, parce qu'il y a pas mal d'appels justement, Yannick Jadot, j'aimerais vous entendre sur le 8 février 1962, une manifestation pour la paix en Algérie à Paris. Hein, d'accord, se soldait par 9 morts au métro Charonne. Ce drame qui s'est déroulé peu avant la fin de la guerre, qui est devenu aujourd'hui, Yannick Jadot, tout un symbole sanglant de la répression d'État. Alors, Emmanuel Macron est le premier président à rendre hommage aux 9 personnes tuées. C'est quand même le premier président qui fait beaucoup pour l'Algérie, pour la mémoire d'Algérie, pour le 17 octobre 1961. Vous dites quoi, vous, Yannick Jadot ?
Sur Charonne, et les crimes qui ont été commis là-bas, sur évidemment le 17 octobre 1961, ça s'appelle un massacre d'État, ça s'appelle un crime d'État. Mmh. Il faut l'assumer en tant que tel. Il faut reconnaître évidemment la mémoire de celles et de ceux qui ont perdu la vie, parce qu'il y a eu une volonté politique de l'État, à travers y compris son ministre Papon, de commettre des crimes et de les assumer. Donc ça s'appelle un crime d'État, je pense qu'il faut le reconnaître comme tel.
Donc il a raison, Emmanuel Macron ?
Non, il n'a pas appelé ça un crime d'État.
Vous, si vous êtes élu président de la République ?
Je reconnaîtrais la responsabilité directe de l'État dans ce qui s'est passé. Vous savez, on a dans notre pays, évidemment, une histoire à affronter avec lucidité. Mmh. On affronte l'histoire avec lucidité quand on dit la vérité. Mmh. Et on réconcilie non pas les mémoires, mais les personnes, quand on a fait la vérité sur l'histoire. Et donc, je souhaite qu'effectivement, l'État français reconnaisse les crimes qui ont été commis au nom de l'État, par une volonté délibérée à ce moment-là de l'État, pour que nous puissions non pas oublier, certainement pas oublier, mais dire la vérité, pour qu'on puisse
regarder... C'est la première fois d'ailleurs qu'on vous entend dire ça, Yannick Jadot.
Donc vous savez, en direct... J'ai fait des manifestations...
Dans les informations... non mais dans les médias. Si vous êtes élu président de la République, vous reconnaisserez cela comme un crime d'État.
Oui.
Oui.
Oui, 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 parce qu'on en a besoin. On en a besoin, y compris pour rassembler et réconcilier notre pays. Parce que vous voyez bien comment... on parlait de la campagne présidentielle. Comment certaines candidates et certains candidats instrumentalisent cette histoire, continuent à diviser notre pays autour de cette histoire, en réécrivant le passé, en attisant les mémoires, en inventant, j'allais dire parfois, le passé, en le réécrivant au détriment de la vérité. Il nous faut la
vérité.
Donc
vous serez le premier président de la République à franchir un pas, évidemment...
Qui est un pas de vérité et de réconciliation.
Je reviendrai sur le 17 octobre 1961. Ce que je vous propose, c'est d'aller écouter nos auditeurs. Ça vous va ?
Ça va.
01 53 48 3000, nous allons direction Saint-Étienne, Yannick Jadot. Ah. Je vais accueillir Mohamed. Vous connaissez Saint-Étienne ?
Ah, mais moi, vous savez, c'est toute ma jeunesse, c'est les Verts.
C'est pour ça que c'est un symbole, peut-être.
Ça reste mon club
de
cœur.
On n'a pas fait exprès, je vous promets. Hein.
Je suis Picard, mais ça reste mon club de cœur.
Voilà. Mohamed, bonsoir, Mohamed.
Allô ?
Oui, bonsoir, Mohamed.
Oui, c'est Mohamed le pharmacien, non, machin, mais il a compris Saint-Etienne, c'est pas grave.
Eh bien,
alors moi, je vais poser une question.
Allez-y, mon cher Mohamed.
Voilà. Dans votre équipe de, je sais pas, de rugby, football, là, vous avez des Arabes de service ou des Arabes citoyens?
Ah, c'est une question que beaucoup d'auditeurs se posent. Est-ce que c'est des Arabes de service ou des
Arabes citoyens? Les Antillais, les Africains, tout ça, là.
Vous savez, beaucoup. Non, mais vous savez, alors, Mohamed, merci de cette question. Régulièrement, je vous promets d'en les informer, ils considèrent, je ne sais pas pourquoi nos auditeurs, que les franco-maghrébins ou les franco-africains subsahariens qui vous entourent, pas vous, hein, partout, sont considérés comme des secondes zones. Vous dites quoi, Mohamed?
Je trouve ça délirant qu'on se pose la question.
Non, en tout cas,
pardonnez-moi, j'ai eu, par exemple, on parlait tout à l'heure des élections européennes. J'ai eu 13 élus députés européens. Il y en a 3 qui sont d'origine maghrébine. Sur 13. Ils sont élus, ils sont députés européens. Hein.
Oui, oui.
Ils ne sont pas assistants parlementaires.
Bon, il y en a qui sont débatteurs ici chez nous.
Ils ne sont pas assistants parlementaires.
On a Mehdi Belabès.
Ils sont députés européens.
Qui vous salue d'ailleurs, il y a Philippe Bouriaki, il y en a plein.
Ils sont députés européens. Donc, moi, je ne fais pas la différence, en fait. Je ne me pose pas la question.
Vous ne vous posez pas la question?
Non, je ne me pose
alors
pas la question
des gens. Pourquoi les auditeurs se posent la question?
Parce qu'il y en a trop qui instrumentalisent. Bien sûr. Quand vous voyez le meeting de Zemmour. Où c'est que des blancs et vous mettez un noir derrière Zemmour, bon. Là c'est de l'affichage.
Alors après Saint-Etienne, je vous propose de, évidemment on va parcourir la France, Argenteuil, ça vous va?
Mais très bien.
Karim, bonsoir Karim.
Bonsoir Adil, bonsoir.
Bonsoir, je vous écoute mon cher Karim, bienvenue. Quelle est votre question auprès de Yannick Jadot?
Ben écoutez, M. Falcan, je vois que M. Jadot ne parle pas trop des banlieues populaires. Moi je viens d'Argenteuil. Dans la rue, on voit qu'il y a de plus en plus de délinquance, que ce soit même les trafics de drogue, etc. Alors, dans l'actualité, on parle beaucoup de lutte contre cette délinquance de certains candidats. On parle de coups de karcher, on parle des propos de M. Zemmour. Donc, moi, je voudrais savoir ce que M. Jadot veut apporter pour les banlieues populaires.
Vraie bonne question. Merci pour votre intervention, Karim d'Argenteuil, 01-53-48-3000. Yannick Jadot.
Mon objectif en matière de sécurité, c'est l'efficacité. Comme vous le savez, depuis des années et des années, y compris ceux qui gouvernent, prétendent à la crédibilité sur la sécurité. La droite a supprimé 12 à 13 000 postes de policiers, a, avec Sarkozy, fracturé le renseignement. Déclencher la guerre en Libye, dont on voit aujourd'hui toutes les conséquences encore au Sahel. Avec Emmanuel Macron, on a vu les résultats qui viennent de tomber, avec notamment une augmentation de l'insécurité, et notamment des violences sur les personnes. Une explosion des violences faites aux femmes. Moi, ce que je veux, encore une fois, c'est l'efficacité. Aujourd'hui, quand je rencontre les policières et les policiers, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent, on est submergé par la paperasse. Pourquoi est-ce que quand vous faites une procuration de vote, il faut que ce soit un policier qui s'occupe de votre procuration de vote? Pourquoi est-ce qu'on mobilise autant de policiers sur la pénitentiaire? Pourquoi est-ce que les gouvernements, depuis des années, n'ont qu'une stratégie, la politique du chiffre? Quand vous discutez avec les syndicats de policiers, ils vous disent quoi? Ils vous disent, quand le ministre de l'Intérieur va faire une émission dans 10 jours ou dans 15 jours, on nous demande de faire des contraventions en masse sur tel sujet parce qu'il veut en parler le soir. Ça ne nous permet pas d'être dans la rue, ça ne nous permet pas de faire de la prévention, ça ne nous permet pas d'interpeller, ça ne nous permet pas de faire les enquêtes pour les mener au bout. Donc moi, je veux à la fois renforcer les effectifs, évidemment travailler sur l'équipement des policiers, sur l'état des commissariats, sur la formation, mais avec un objectif très clair. Et c'est d'ailleurs
le sens
de l'engagement des policiers.
La police de proximité, on ne vous a pas entendu très peu.
Mais c'est justement le sens, c'est d'être sur la voie publique. Les policiers ne demandent qu'une chose.
Oui, qu'est-ce qu'ils demandent?
D'être sur la voie publique pour faire leur boulot.
Ils vous l'ont dit?
Mais bien sûr, les syndicats de police le disent. Vous croyez que ça leur plaît aux syndicats de police de ne plus être sur la voie publique et d'envoyer simplement, quand il y a un problème, d'envoyer la BAC sur un mode un peu coup de poing? Mais ils préféreraient de loin pouvoir travailler avec les habitantes et les habitants au quotidien, de travailler avec les magistrats, de travailler avec les acteurs sociaux, de travailler avec, j'allais dire presque immeuble par immeuble. quels sont les problèmes ici d'insécurité? Comment on les résout collectivement? Comment on fait de la prévention? Mais c'est ça qu'ils veulent, les policiers. Quand vous les rencontrez, ils vous disent « Moi, je suis engagé pour protéger et j'ai perdu le sens de ma mission. Je ne sais plus pourquoi, des fois, j'y vais la peur au ventre, j'arrive même plus à parler avec mes collègues. Quand je fais la nuit, j'ai un euro de plus pour mon salaire la nuit. » Eh ben, nous changerons les conditions et nous changerons les missions pour justement garantir la sécurité, et notamment au niveau des personnes qui en ont le plus besoin dans les quartiers populaires.
Yannick Jadot, on reviendra sur ce dossier précisément face justement à notre débattrice Céline Bory, qui est journaliste et qui interviendra justement sur ces questions des quartiers populaires. Je voudrais juste, parce que le temps évidemment file, vous entendre sur le 17 octobre 61. Vous savez, Emmanuel Macron, lui, il a fait un pas de plus que son prédécesseur François Hollande dans la reconnaissance du massacre des manifestations des Algériens, donc survenu le 17 octobre 61, avec une cérémonie organisée au Pot de Beson. Vous, ce serait quoi votre pas supplémentaire si vous étiez élu demain, président de la République?
Je vous ai répondu tout à l'heure.
Sur le 17 octobre 61.
Non, mais c'est, pour moi, c'est reconnaître que ce qui s'est passé le 17 octobre 61 ou ce qui s'est passé à Charonne, ça relève d'une même logique, ça s'appelle un crime d'État. Ce qui s'est passé, c'est un massacre délibéré qui a conduit, y compris, on n'arrive même pas à savoir le nombre de victimes, vous vous rendez compte? Plus de 60 ans après le 17 octobre 61, on n'arrive même pas à voir le nombre de victimes exactes, qu'on allait repêcher les corps dans la Seine, en aval, pour essayer de les comptabiliser. Eh bien, encore une fois, il faut reconnaître la responsabilité de l'État. À ce moment-là, il n'y aura pas de réconciliation des Françaises et des Français, quelle que soit leur origine.
Mais ils sont prêts?
Qui?
Ben, les Français.
Oui. Mais moi, vous savez, je fais confiance aux Françaises et aux Français. Notre histoire de France, elle est riche des plus belles pages de l'histoire de l'humanité. Et elle a des pages extrêmement sombres. Et vous savez pourquoi, à un moment donné, un pays se déchire sur son histoire? Parce qu'il ne se projette plus ensemble. Parce qu'il n'y a plus de projet partagé.
Vous êtes prêt à porter,
et à chacun.
Vous êtes prêt à porter tout cela, Yannick Jadot? Est-ce que vous êtes prêt à endosser l'habit du président de la République?
Mais bien sûr.
Franchement, répondez-moi.
Mais bien sûr.
Est-ce que vous vous sentez prêt? Ou est-ce que vous vous êtes dit, il me faut encore un peu de temps?
Mais trop tard. Je m'y prépare depuis longtemps. Je m'y prépare parce que c'est notre responsabilité.
Donc vous êtes prêt à endosser l'habit?
Mais bien sûr. Mais
et pourquoi, toute la responsabilité dis, de non, qui vous attend.
Laissez-moi. Développer mon point. Vous savez, pour beaucoup de Françaises et de Français et de gens qui habitent notre pays, l'avenir est sombre pour les enfants. Ils pensent que nos enfants vivront moins bien que nous. Ils sont inquiets, ils sont angoissés. Et vous avez des semeurs de haine qui viennent et qui disent vos angoisses. Je vais les manipuler. Je vais en faire des paniques identitaires. Et je vais vous foutre la trouille. C'est le suicide français. C'est le déclassement. C'est la disparition de la France. C'est le grand remplacement. C'est le déclin. Mais c'est pas vrai. C'est pas ça, la France. La France, dans ses quartiers populaires, dans ses campagnes, dans ses centres-villes, dans ses associations, dans ses entreprises, dans ses centres de recherche, dans ses fermes, elle regorge d'énergie vitale, qui ne demande qu'à s'exprimer, qui ne demande qu'à s'épanouir, pour nous enrichir collectivement et nous émanciper individuellement. Eh bien, pourquoi l'avenir est angoissant? Parce qu'il y a le chaos climatique, parce qu'il y a la mondialisation qui organise la guerre de tous contre tous, qui abandonne les classes populaires ici pour aller les exploiter de l'autre côté de la planète, parce qu'il y a cette précarité qu'on voit même à la télé sur nos enfants. Résolvons ces problèmes-là.
Faisons de la fiction politique.
Je peux vous dire que les Françaises et les Français, ils vont se retrousser les manches, ils vont se serrer les coudes. Et quand on a un beau projet pour l'avenir, on regarde notre histoire avec lucidité.
En quelques secondes, d'une phrase s'il vous plaît, Yannick Jadot. Si vous êtes élu président de la République, c'est quoi? C'est un candidat, c'est un président de la République écolo, ou c'est un chef d'État qui s'occupe de, évidemment, des responsabilités qui lui incombent?
On n'a même pas encore parlé climat. C'est pour vous dire à quel point aujourd'hui l'écologie, c'est la seule alternative crédible à tout le bazar dans lequel on est. Que vous croyez, regardez le statu quo, regardez ce libéralisme qui nous gouverne, cette technocratie qui nous gouverne. Ce sont les désordres écologiques, ce sont les désordres sociaux, ce sont les désordres économiques, ce sont les désordres démocratiques. Et la solution, ça serait de les reconduire 50 plus. On a eu Sarko, on a eu Hollande, on a Macron.
Vous trouvez que notre pays va bien? Même avant la pandémie, il allait bien? Les à deux pas d'ici, à l'hôpital de Saint-Denis, vous croyez qu'ils allaient bien avant la pandémie? Vous croyez que ce département allait bien?
Ben, je laisse le soin aux auditeurs au 0153-48-3000. Voilà. Venir vous interpeller. Il est 19h et je vais accueillir donc le premier débatteur qui va venir vous, évidemment, échanger avec vous. Vous avez appelé au boycott diplomatique des JO 2022 de Pékin.
Oui.
Pour quelle raison? C'est les Ouïghours qui vous interpellent?
Bien sûr, les Ouïghours et tous les démocrates.
Oui. Mais comment vous agissez concrètement?
Non, mais alors, si on parle des JO, vous vous rendez compte qu'on va envoyer notre ministre des Sports? Quand Xi Jinping et Vladimir Poutine instrumentalisent le sport pour servir leur dictature. Moi, j'adore le sport. Je suis passionné par le sport. Le sport sont des valeurs. Sont des valeurs de fraternité, de solidarité, de dépassement de soi-même, de sport collectif. Et donc, c'est des valeurs de liberté. C'est l'inverse.
Mais concrètement, Yannick Jadot, comment vous battez?
Là, immédiatement, on arrête
pour
l'accord.
Les Ouïghours.
On arrête l'accord d'investissement avec la Chine. Emmanuel Macron, avec Angela Merkel, ont célébré l'accord d'investissement avec la Chine, qui va mettre la Chine un peu plus dans nos entreprises et dans nos secteurs vitaux. Tout ça pourquoi? Vous savez quel était l'intérêt offensif de la France dans l'accord avec la Chine? Exporter des EHPAD privés. C'est ça qu'on a arraché à la Chine. Exporter un peu plus d'Orpea, de Corian, quand on voit comment ils maltraitent nos anciens. Eh bien, à travers notre marché, on va pas aller faire la guerre à la Chine, mais l'Europe, c'est le plus gros marché de consommateurs. Eh bien, à travers notre marché, on interdit les produits issus du travail forcé. C'est le cas des Ouïghours. On interdit les produits qui ne respectent pas l'issue de pays, qui ne respectent pas la liberté syndicale. C'est protéger les salariés ici et c'est les protéger là-bas.
Yannick Jadot, il est 19h02, 01-53-48-3000. Je vous attends toujours au standard pour venir interpeller le premier candidat dans cette émission spéciale. Les informés présidentielles 2022, le candidat écologiste Yannick Jadot. Allez, tout de suite, ce que je vous propose, Yannick Jadot, c'est évidemment de vous, j'ai envie de dire, de façon triviale, vous frotter à cet échange avec nos débatteurs.
En respectant les gestes barrières, quand
les
même.
Les gestes barrières, absolument. Le face-à-face, tout de suite, évidemment. Jingle, c'est parti.
Les informés. Le face-à-face.
Le face-à-face, il est proposé d'abord avec le premier débatteur, Majid, le docteur Majid Sehoussine, qui est éditorialiste chez nous ici, qui intervient tous les mercredi, à 19h30. Il va parler de santé, des discriminations, de grands, des personnes âgées. On aura Jean-Claude Fischikaya qui parlera de politique étrangère de la France, mais également aussi de la politique géopolitique ici même. Céline Bory, qui est journaliste, qui viendra parler des quartiers populaires et des inégalités. Et enfin Nadia Chérif, qui viendra vous interpeller sur les questions du transport et l'écologie. Docteur Majid Sehoussine, bonsoir.
Bonsoir Adil.
Comment ça va?
Très bien.
Eh bien je vous laisse, vous avez, 9-10 minutes avec Yannick Jadot, le candidat pour cette présidentielle 2002, sur les questions que je viens de citer concernant la santé, les discriminations et les personnes âgées. Bonsoir. Docteur Majid Sehoussine.
Bonsoir Monsieur Jadot.
Bonsoir.
En tant que candidat écologiste, on vous attend sur le climat, sur le mieux vivre, sur l'alimentaire. On vous attend peut-être un peu moins sur les questions de santé. Pourtant, vous êtes appelé à être, j'espère pour vous, président de la France. Et donc, c'est un des chantiers que vous devez prendre en compte. On voit bien que la santé en France est malade. Pendant très longtemps, notre pays a été le premier système de par son accessibilité. Pas forcément toujours pour sa qualité, mais au moins par son accessibilité, et se pose une question d'égalité citoyenne, que ce soit dans nos quartiers populaires qui nous sont chers, mais aussi dans nos campagnes pour lesquelles on a beaucoup d'affection, c'est l'accessibilité aux soins. On voit que les candidats ont des propositions sur la question des déserts médicaux, avec des mesures autoritaires, des mesures incitatives. Vous, si vous étiez président de la République, quelles sont vos solutions pour que chaque Français puisse au moins avoir accès à un médecin généraliste, quel que soit l'endroit où il demeure en France?
Alors d'abord, pour les écologistes, la santé, c'est au cœur de tout. Parce que c'est la santé, on le voit bien avec cette pandémie, c'est la santé humaine, c'est la santé animale, c'est la santé environnementale. Donc c'est toujours au cœur de notre projet et on voit bien aujourd'hui les liens. Deuxièmement, moi j'ai visité beaucoup d'hôpitaux, j'ai rencontré beaucoup de personnels soignants qui, évidemment, sont en grande difficulté malgré leur héroïsme. Parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils sont mal payés, parce qu'ils sont sous-effectifs, que sur les trois derniers quinquennats principalement, l'hôpital a été considéré comme une entreprise qui doit être rentable et non pas comme un enjeu majeur de service public. On ne demande pas à l'école d'être rentable, on n'a jamais compris pourquoi l'hôpital devait être rentable. Et donc on a cette situation absolument dramatique. Donc moi, je veux partir des territoires, partir des besoins par territoire et construire à l'échelle de chaque territoire la réponse en offre de santé. Évidemment, il y a l'hôpital public, mais il y a aussi la médecine de ville, il y a tout ce qui se développe pour qu'on soit en situation de répondre aux besoins. Et l'une des mesures pour l'hôpital public, c'est recruter 100 000 infirmières, infirmiers. On a besoin, comme dans les EHPAD d'ailleurs, d'augmenter très sensiblement, très significativement, le ratio entre personnel soignant et malade. Sur la question des déserts médicaux, effectivement, une commune sur trois dans notre pays est un désert médical. C'est près de 8 millions de personnes qui
vous
n'ont
confirmez
pas,
oui, tout à fait.
Qui n'ont pas accès.
Non, mais on a besoin d'être factuel.
Non, qui n'ont pas accès aux soins les plus élémentaires. Alors, sur la question très précise que vous avez posée sur les médecins. On arrête d'autoriser l'installation de médecins dans des zones surdotées.
Donc vous êtes pour un conventionnement sélectif.
Un conventionnement sélectif, c'est-à-dire qu'en fait, sur une zone surdotée...
Vous découpez une grenade.
Attendez, je sais, mais j'assume. Sur les zones surdotées, évidemment, quand il y a un médecin qui s'en va, il peut y avoir un remplacement. Là où je sais, parce que j'ai eu le débat avec les médecins, évidemment, je sais le sacrifice que je demande. C'est que la dernière année de médecine et les deux premières années d'exercice, il y ait une obligation d'installation dans les zones sous-dotées. Qu'on organise l'accompagnement des médecins. Je sais les études qu'ils font. Je sais le sacrifice qu'ils font, y compris pendant leurs études. Mais on ne peut pas laisser 8 millions de Français sans accès à la médecine. Et que toutes les initiatives jusqu'à maintenant, des maisons de santé, des machins, tout ça, ça laisse toujours des déserts médicaux. Alors oui, on accompagnera le médecin, on accompagnera la famille, on mettra le niveau de rémunération qu'il faut, on garantira les vacances, parce que c'est des sujets essentiels pour n'importe quel médecin. Mais oui, nous organiserons pour 3 ans, dernière année d'études et 2 premières années, l'installation des médecins dans les zones sous-dotées.
Vous êtes convaincu?
Ah ben ça, les médecins sont contre, on va pas se raconter l'histoire.
Il va se fâcher avec tous les syndicats d'internes.
Ils écoutent.
Mais vous savez, un prof, quand il est diplômé, il choisit pas son affectation. Je sais que les médecins sont des professions libérales. Mais ce sont aussi... Non, mais je sais. Mais au fond, ce sont des professions libérales, mais... reconnaissons qu'ils vivent de l'argent public et de la collectivité. Et c'est tant mieux. Et moi, je veux que chacune, chacun puisse... Alors évidemment, on va augmenter le nombre de médecins. Et progressivement, cette question de l'installation, y compris, comme nous, on a un projet qui est aussi de remettre des services publics dans l'ensemble sur nos territoires, de remettre de l'activité économique, ça sera plus facile.
C'est une question d'aménagement du territoire à l'évidence. Qu'est-ce que vous pensez de la question la presse défraye, on a vu des articles sur Le Point, sur le brain drain. Vous qui êtes écologiste, qu'est-ce que vous pensez du pillage des cerveaux qui se fait aux dépens des pays du tiers-monde? On voit très bien que, par exemple, il y avait dans Le Point un article il y a quelques jours où on voit que 1200 médecins viennent de l'Algérie. On a vu que lors de la dernière procédure d'autorisation d'exercice de la médecine, on a aspiré 2000 médecins venant d'un peu partout, mais évidemment de pays du tiers-monde qui ont bien besoin de ces médecins. Est-ce que là, ce n'est pas une manifestation de l'égoïsme de l'Europe, de la France singulièrement, par rapport à ces pays?
Vous avez raison.
On est bien conscient que là, on pille des richesses, on reçoit des produits tout cuits en main.
J'aurais pas cette expression qu'on reçoit des produits tout cuits en main. Si vous voulez, comme on a eu pendant longtemps le numerus clausus sur le nombre de médecins formés, alors on en sort, mais on n'en sort pas totalement, parce qu'au fond, la sélection qu'on faisait avant, le fait par l'oral et tout ça, on n'a pas assez formé d'infirmières et infirmiers. Et c'est vrai que ce serait une bonne question à poser à Zemmour. Est-ce qu'il renvoie les 30 000...
On lui posera quand il sera à votre place.
Est-ce qu'il renvoie les 30 000 médecins, considérés comme 30 000 médecins migrants dans notre pays, qui limitent les déserts médicaux, notamment dans les quartiers populaires? Est-ce qu'on renvoie les 40 000 infirmières migrantes, au sens où elles ont été formées et sont nées à l'étranger? Eh bien, la réponse, la solution, c'est d'abord d'accélérer la formation des infirmières et des médecins, mais pour accélérer cette formation-là, il faut qu'il y ait un sursaut d'attractivité. Je veux dire, aujourd'hui, vous ne créez pas des vocations quand vous avez des conditions de travail aussi difficiles. Mais donc oui, par exemple, on va augmenter les infirmières et les infirmiers très sensiblement.
Il faut les places de, il faut les terrains de stage, il faut aussi les écoles et les places dans
oui,
les écoles.
Mais c'est,
on voit bien
c'est
que c'est le problème, par exemple, dans les universités.
C'est
on a fait sauter le numerus clausus, sauf que les terrains de stage et les capacités de formation.
C'est ça, exactement.
Mais par contre, moi, je reviens sur la question du pillage des cerveaux. Quelle est votre position sur cette question-là ?
Écoutez, moi, je suis, si vous voulez, c'est très compliqué de dire à une personne qui a envie de venir exercer en France, de lui dire je te refuse l'exercice de ta profession, de ton engagement en France, et je te renvoie dans ton pays parce que soigne dans ton pays. Donc c'est vrai qu'il y a là, nous, à trouver les moyens, au fond, de tarir la nécessité pour que ces médecins et ces infirmiers, ces personnels soignants restent dans leur pays. Mais reconnaissons aussi que souvent, dans leur pays, leurs conditions de travail sont aussi extrêmement difficiles et que trop de pays ont totalement dérégulé, abandonné les services publics sous la pression des financiers, des institutions de Bretton Woods ou des donneurs d'ordre.
En raison de la pauvreté, tout simplement.
De leur dette. Et donc, on a créé un effondrement, un affaissement des services publics dans ces pays-là. Mais là, ça renvoie aussi à quelle coopération nous avons avec ces pays pour les soutenir dans leur développement et le renforcement de leurs services publics.
Quelques minutes avant de marquer la pause pub, Majid Seoussine, docteur Majid Seoussine.
Alors, on a le scandale des maisons de retraite Orpea, ouais, montre à quel point tous les gouvernements précédents sont en retard sur la question du vieillissement de notre pays. Ouais. Moi, je suis gériatre. Personne n'a été en mesure d'organiser la grande loi sur le cinquième risque, le risque dépendance. Vous, en tant que président de la République, qu'est-ce que vous faites pour ce cinquième risque ? Est-ce que vous le confiez au privé ? Est-ce que vous en faites un moyen pour l'État de s'investir ?
Oui.
Et quelle source de financement vous trouvez pour ce cinquième risque ?
Yannick Jadot.
Je vais augmenter les droits de succession sur les grandes fortunes. Vous savez qu'aujourd'hui, y compris il y a eu des notes du Conseil d'analyse économique, donc qui est rattaché au gouvernement, qui a dit que, par exemple, quand vous avez une très grande fortune, vous devriez payer sur les successions 45%, vous payez 10%. Donc, il y a toute une série de dérogations, d'exonérations, de contournements qui permettent aux grandes fortunes de ne pas payer les droits de succession. Eh bien, nous reviendrons sur toutes ces dérogations, ces exonérations. Ça nous permet d'augmenter nos recettes de 8 à 9 milliards d'euros que nous affecterons à cette politique sur l'autonomie et sur la dépendance. Ce qui est scandaleux, c'est que, vous avez raison, ces différents gouvernements, et on entend les cris d'orfraie du gouvernement disant « Oh, dis donc, la libéralisation, la spéculation sur la perte d'autonomie, c'est vraiment ignoble. » Ils l'ont soutenu, cette spéculation. Il faut savoir que, y compris les propriétaires, que ce soit d'Orpea, de Korian ou de Domus 6, bénéficient de crédits d'impôt. Quand vous investissez dans leurs infrastructures, eh bien, il nous faut, moi j'interdirais, des nouvelles licences d'EHPAD privés à but lucratif, et que cet argent-là, on le mettra dans les systèmes publics ou les systèmes mutualistes, les systèmes coopératifs, et nous montrons l'accompagnement des pensionnaires autour d'un accompagnant pour un pensionnaire. C'est ce qui se passe dans les pays du Nord.
Ça vous paraît réaliste, docteur ?
C'est ce qui se passe dans les pays du Nord. C'est le moindre des respects pour nos anciens. On ne veut pas voir la mort dans nos pays aujourd'hui. On ne veut pas la voir, on la
qu'est-ce
cache.
Qu'est-ce qu'on fait de nos anciens ?
Et on veut pas voir la perte.
Et surtout, qu'est-ce qu'on fait de nos anciens ?
L'objectif semble honorable, les moyens d'y arriver, il faut les chiffrer. Mais que faites-vous pour trouver les bras, tous ceux qui sont nécessaires.
Mais là aussi, c'est des conditions de travail.
Et vous serez sans doute d'accord avec moi qu'on ne pourra pas faire éternellement des constructions de maisons de retraite et qu'il faut aussi travailler sur la question du maintien à domicile, donc créer des filières d'emploi, des filières de formation et rendre ces métiers attractifs. Quelle solution vous proposez?
Vous savez combien touche une aide à domicile en moyenne?
Oui, tout à fait.
On est autour de 600, 650 euros par mois.
Largement inférieur au SMIC.
Très inférieur au SMIC avec des horaires qui vont parfois de 10 à 12 heures par jour. Parce que quand vous êtes aide à domicile, on vous paye la personne, quand vous êtes avec la personne, mais on ne vous paye pas l'heure et demie que vous ne pouvez pas prendre pour le déplacement. Donc en fait, on a précarisé des personnes essentielles pour le soin. Vous savez combien on a de postes vacants dans les crèches ? 60 000. On a ce que vous dites, l'accompagnement à domicile, l'accompagnement dans les EHPAD. Vous avez plein d'EHPAD en France où vous n'arrivez même plus à trouver un médecin qui vient de temps en temps ou une infirmière. Et pour conclure sur ce que vous disiez,
l'argent, il faut aussi. Vous trouverez où l'argent là ?
Mais oui, mais à un moment donné, il faut
l'argent, le nerf de la guerre. Vous trouvez où ?
Je vous ai dit, on trouve l'argent. Mais à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Moi, je veux renforcer la fiscalité sur les très riches. J'assume. Il va falloir à un moment donné que on a des milliardaires qui se sont jamais autant enrichis que pendant la pandémie, qui se sont jamais autant enrichis que dans les 10 dernières années. Et on est là à tous pleurer sur l'état de l'hôpital public. Ben, il y a un moment donné, il faut faire le lien entre ceux qui sont très riches, qui essayent d'échapper à la solidarité, et ce qu'on veut. Et juste pour les anciens,
rapidement,
c'est
s'il vous plaît,
à domicile.
Je dois lancer la pub.
Mais il faut aussi arriver à trouver des structures intermédiaires qui ne sont pas le domicile quand il y a beaucoup de pertes d'autonomie.
Merci.
Qui
ne
sont pas forcément l'EHPAD, qui sont des structures intermédiaires collectives.
Merci à Majid. Docteur Majid Seoussine, donc évidemment, pour cet échange. Vous restez avec nous dans les studios. On va retrouver tout de suite, après la pub, Jean-Claude Félix Chikaya, chercheur au sein de l'IPSE, qui va, lui, vous interpeller sur la politique étrangère de la France, et puis aussi parler de géopolitique. Vous aussi, au 01 53 48 3000, je vous attends pour venir interpeller le candidat Yannick Jadot. A tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, Les informés avec Adil Farkan.
Émission spéciale, Les informés présidentielles 2022 avec Yannick Jadot, le candidat écologiste. Bien sûr, nous allons retrouver Jean-Claude Félix Chikaya, Céline Bory, Nadia Chérif et vous au 01 53 48 3000. Tout de suite, on y va.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Jean-Claude Félix Chikaya, bonjour.
Bonjour.
Si vous permettez, je vais juste accueillir rapidement Pantin Karim. Bonsoir Karim.
Allô, bonsoir.
Bonsoir mon cher Karim. Soyez court et précis s'il vous plaît, évidemment. C'est la course en permanence avec l'horloge. On vous écoute mon cher Karim pour votre question auprès du candidat.
Je veux juste apporter mon soutien à Jadot pour qui je voterai et pour qui j'ai une grande admiration. Voilà, je voudrais simplement lui dire... Pardon ?
Non mais je sais que c'est souvent le cas, évidemment. Qu'est-ce que vous lui dites ?
Merci. Alors, je voudrais simplement lui dire est-ce que ça serait une bonne idée pour mettre un terme à cette haine anti-musulmane qui devient vraiment insupportable dans ce pays ? Est-ce qu'il serait possible de renforcer la loi Guesso, en l'étendant à la communauté musulmane afin de lutter contre cette haine permanente des musulmans de France, quoi ? Voilà. Merci pour votre réponse.
Merci, Karim. Retenez bien. Non, attendez, vous ne répondez pas, Yannick Jadot. Je vais prendre une série de questions. On a beaucoup d'appels. Mohamed de Saint-Brieuc, la Côte d'Armor, en Bretagne. Bonjour, Mohamed.
Oui, bonjour.
Bonjour, on vous écoute. Soyez clair et précis dans votre question auprès du candidat Yannick Jadot.
Très bien, merci. Je cherche un boucher professionnel avec une expérience de 3 ans minimum dans une boucherie halal.
Oui.
Donc, pour travailler dans notre boucherie en Bretagne, à Saint-Brieuc, exactement, en Côte d'Armor.
Oui.
Et ce serait pour l'aider s'il veut s'installer en Bretagne, dans un beau cadre. Il y a la mer à côté.
Oui.
C'est vraiment une ville moyenne, tranquille,
un beau cadre de vie. Et quelle est votre question précise ?
Elle cherche un boucher, donc... avec une expérience de 3 ans.
Alors pour l'instant, je fais la campagne pour l'élection présidentielle. Donc je suis pas disponible en fait.
Voilà. Et voilà. Merci Mohamed. Qu'est-ce que vous répondez à Karim de Pantin ?
Il faut appliquer la loi. Aujourd'hui, y compris, vous allez recevoir un candidat qui a été quand même condamné pour incitation à la haine raciale. C'est pas rien quand même. On a des candidats dans ce pays qui stigmatisent matin, midi et soir toute une partie de la population, qu'elle soit noire, qu'elle soit arabe, qu'elle soit musulmane. Vous vous rendez compte le débat politique qu'on a ? Vous avez des millions d'habitantes et d'habitants dans ce pays qui, tous les jours, sont montrés du doigt, qui, tous les jours, sont désignés comme les responsables de tous les problèmes
que
nous
avons. C'est ce que vous répondez à Karim ?
Mais bien sûr. Et oui, il faut pleinement appliquer la loi. On parlait de Zemmour, évidemment, on sait Le Pen. Mais quand Valérie Pécresse... Quand Valérie Pécresse dit « Il faut sortir les karchers des caves pour nettoyer les zones de non-France ». Comment ça s'appelle ? Ça s'appelle du nettoyage ethnique. Ça s'appelle du nettoyage ethnique.
Nettoyage
ethnique. Alors, Il va falloir sortir de cette ambiance. Il va falloir, encore une fois, porter des réponses sérieuses aux problèmes des Français. Et puis, qu'on soit tous ensemble sur un projet partagé qui permette à chacune et chacun de vivre sa diversité, de vivre en dignité, pour vivre pleinement dans notre pays.
Monsieur Yannick Jadot, Jean-Claude Félix Chicaya, chercheur au sein de l'IPSE, on vous écoute. À vous la parole, évidemment. Échange qui va durer quelques minutes sur la géostratégie.
Alors,
la géopolitique.
Géopolitique et puis en termes de politique et étrangère, mais Yannick Jadot, comme vous êtes donc candidat au présidentiel, la géopolitique est, on peut dire, au cœur du projet écologique. Hein, on peut revenir au début des années 70 avec Monsieur René Dumont, ou même au début des années 2000, moi je l'ai vécu quand les Verts ont parlé de la question climatique et environnementale et les inégalités à l'intérieur des quartiers dits populaires. Donc il y a une géopolitique de la question climatique et environnementale à l'intérieur de l'Hexagone, mais aussi avec l'outre-mer. C'est aussi grâce à l'outre-mer que nous sommes deuxième puissance mondiale au niveau maritime, juste derrière les États-Unis et autres potentialités. Nous sommes grâce.
Et pourtant, on la traite mal, l'outre-mer. Hein. La République traite sacrément mal l'outre-mer.
Il y a des réminiscences néocoloniales, si je puis dire. Et souvent, la carte postale se fend devant la carte sociale et économique quand on veut parler sérieusement des questions outre-mer. Moi, ce que je voudrais...
C'est une bonne expression. La carte postale se fond derrière la carte sociale.
Non, mais il est bon, Jean-Claude Félix.
C'est pas pour plaisanter, ça dit beaucoup de choses.
Alors, je voudrais vous poser deux questions, et notamment en termes de politique étrangère, et notamment sur un dossier aigu qui concerne notamment des personnes qu'on peut retrouver habitant en banlieue ou ailleurs. Hein, la banlieue n'est pas la maison mère ou le lieu dit des personnes d'origine d'Afrique du Nord ou dites Afrique noire, mais moi je n'emploie pas ce mot-là parce que je ne veux pas racialiser un continent. C'est le dernier continent racialisé au monde. On parle d'Afrique noire, alors qu'il y a des Noirs aussi depuis des millénaires en Afrique du Nord. Donc toute l'Afrique, il y a bien quelque chose. Je prends deux mots, donc qui doit passer en transition dans un mouvement réciproque. C'est quelle va être votre politique étrangère à l'égard de l'Afrique, d'Alger jusqu'au Cap, donc en Afrique du Sud, mais bien sûr, il y a des différences et autres. Mais ce qui est fort ressenti dans la diaspora et dans tous les pays d'Afrique.
Ils sont très attachés à la
diaspora. Ils ne sont pas anti-français, comme on veut bien le dire. Ils sont anti un système de France-Afrique, y compris à l'égard de leurs locaux qui, malheureusement, sont dans cette dynamique et politique.
Yannick Jadot.
Alors, c'est un grand et beau sujet. J'ai eu la chance, le privilège de vivre et de travailler en Afrique pendant des années, notamment aux côtés des organisations paysannes pour lutter contre la mondialisation libérale, la libéralisation de tous les secteurs agricoles qui ont tué l'agriculture vivrière dans toute l'Afrique. Je suis... Vous savez, moi, pour moi, il y a plusieurs choses. Un, arrêtez de nuire. Avant d'aider, arrêtons de nuire. Quand on va piller des ressources en Afrique, à travers la complicité de l'État français, à travers un certain nombre de multinationales, on génère tous les problèmes qu'il y a dans ce pays, dans ces pays. On génère le mal-développement, on génère la corruption. C'est pas retirer la responsabilité des corrompus.
Bien sûr.
Vous avez des États et des dirigeants qui, depuis des années, agitent le néocolonialisme pour plus se planquer derrière leur propre corruption. Mais nous avons une responsabilité en tant que France et en tant qu'Europe. Un, arrêter de nuire. Deux, coopérer autour de l'intelligence. L'Afrique aujourd'hui, si on doit prendre le continent, c'est une jeunesse extraordinaire.
Non mais la question de Jean-Claude Trichicaya pour avancer, la réconciliation avec la diaspora. Comment elle se fait concrètement? C'est ça le sens de la question.
Moi, je me suis battu des années sur, par exemple, ce qu'on appelle les accords de Cotonou. Vous savez, ces accords de libre-échange entre l'Europe et les différentes régions d'Afrique pour arrêter de déréguler leurs services publics, pour arrêter de piller leurs ressources. Au contraire, il faut les aider en permanence à construire leur souveraineté alimentaire, souveraineté énergétique. Il y a une jeunesse incroyable, et y compris sur les questions du numérique. Vous savez, aujourd'hui, il y a une jeunesse africaine qui est en train de se saisir de la question du numérique, qui invente des choses aussi fortes qu'il peut y avoir dans la Silicon Valley aux États-Unis. Eh bien, faisons en sorte que tous ces pays, toutes ces économies, notamment toute cette jeunesse, puissent accéder à l'épanouissement individuel et collectif.
Jean-Claude Félicie Caillard.
Mais on continue à piller les poissons,
s'il vous plaît.
Continue à piller les ressources, et ça aide pas.
Trois mots qui doivent sortir donc des prismes et des paradigmes anciens: aide, développement, donc qui charrie le sous-développement.
On est d'accord.
Personne n'est sous-développé.
On est d'accord.
Tout le monde veut et exige un partenariat, ce n'est pas une demande d'aide, donc c'est pas l'attitude sébile qu'on confère souvent aux Africains, donc ça charrie tous les préjugés et tous les stigmates qui par ricochet arrivent dans l'Hexagone, en banlieue et outre-mer. Donc comment déconstruire cela? C'est aussi avec une autre vision, une autre politique étrangère. Je vais parler du Sahel. Au Sahel, aujourd'hui, notamment au Mali, l'épicentre, il y a donc eu ce qu'on appelle pour certains des coups d'État, et pour d'autres qui vivent là-bas, c'est plutôt la tectonique, c'est comme ça que je l'appelle, la tectonique et la géopolitique des peuples qui a commencé plus haut en Afrique du Nord, qui a été appelée donc les révolutions arabes, c'est-à-dire fustiger et se débarrasser de systèmes politiques nationaux et internationaux pour pouvoir vivre de ses aspirations démocratiques. Et parfois, ça passe par le kaki. C'est une insurrection qui passe par un coup d'État. Donc là, malheureusement, il y a aussi une partie, parce que tout n'est pas homogène dans cette géopolitique, qui tangue vers des pays autoritaires tels que la Chine ou Poutine. C'est complètement contradictoire. Mais alors que ce qu'il faut, si la France veut rester là-bas sans se faire fustiger, c'est changer les termes du partenariat.
Si vous plaît, Jean-Claude Félicie,
la question du quel va être le changement de politique à l'égard de l'Afrique,
Yannick
pour
Jadot,
maintenir une France qui soit respectée, mais qui passe à une transition elle aussi.
Yannick Jadot.
On peut pas ignorer toute l'histoire, évidemment. Mais pour moi, il y a un enjeu extraordinaire que je défends depuis 30 ans. J'ai vécu, je vous l'ai dit, au Burkina au début des années 90 et j'ai eu l'occasion de travailler dans beaucoup de pays. Il faut que la France arrive à européaniser sa présence en Afrique. C'est un enjeu essentiel, en fait.
Elle y est déjà, parce que à 70%, l'Union africaine, le budget de l'Union africaine, c'est 70%. C'est pour cela que quand il y a des problématiques, on parle de l'Union européenne.
En termes de montant, je suis parfaitement d'accord.
Je m'adresse aussi à votre supranationalité de député européen.
Sauf que, au fond, la France essaye de compenser sa perte de moyens sur l'Afrique par une sorte de rayonnement diplomatique qui ne fonctionne pas. Et donc, il faut effectivement européaniser notre présence, ça ne veut pas dire sortir, mais renforcer de toute façon toute la présence de l'Europe pour développer ses partenariats, pour soutenir les organisations de la société civile, parce qu'il n'y aura de démocratie partout dans
quelques
le monde.
Quelques secondes encore.
Mais partout
quelques
dans
secondes,
le monde.
Quelques
que
secondes.
Quand, que quand les forces vives de ces pays imposeront la démocratie. On ne fera pas de démocratie en imposant des chefs d'État ou en soutenant des chefs d'État faussement élus.
Alors,
allez, je dois lancer
justement, la tectonique de la géopolitique
secondes,
des peuples,
Jean-Claude
c'est demander un partenariat à la France, aux pays européens, et viendra après la Chine et autres.
Sauf que vous savez parfaitement que la Chine y est pour piller les ressources.
Non, mais ça, je le sais.
Et pour corrompre.
Ça, je le sais. Ça, je le sais. C'est un contre-exemple. C'est un contre-exemple de partenariat changé.
Il pille les forêts.
Non, mais moi, je m'adresse au président, au prochain président, si vous êtes élu, de la France, donc, mais aussi, donc, la supranationalité Europe. Vous êtes député européen.
D'une phrase.
Donc, il y a,
bien
un double changement demandé.
Oui.
Merci à Jean-Claude Félicie Caillard, chercheur au sein de l'UPSO, mais aussi débatteur dans Les Informés. Dernière tranche pub. On se retrouve tout de suite après donc avec une militante associative. C'est Nadia Chéri qui va prendre place donc évidemment tout de suite. Et on se retrouve dans une poignée de minutes. On va parler transport, écologie et notamment avec Céline tout à l'heure avec des inégalités, les quartiers populaires. 0153 48 3000, ça reste ouvert, le standard est toujours ouvert. A tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les Informés revient dans un instant. 19h, 20h, Les Informés avec Adil Farkan.
Yeah. 19h40 dans Les Informés, le débat est animé. Mais c'est comme ça aussi dans Les Informés. Émission spéciale présidentielle, Yannick Jadot est avec nous. 01 53 48 3000, vos au standard.
On vous attend. Il faut dire aux auditeurs de quoi on parlait.
De quoi on parlait? On parlait de la diversité.
C'est pas assez visible dans votre équipe.
Oui. Bah, parlez-en.
Ma porte-parole, c'est Sabrina Sebaï qui est élue à quelques...
À deux pas d'ici.
À 100, 300 mètres d'ici.
Oui.
Mon directeur de campagne, c'est Mounir Satouri.
Qui était chez nous ici régulièrement.
Donc, je veux dire, j'ai pas revendiqué ça.
Oui.
Pour moi, ça devrait être la banalité.
Oui, cette diversité,
elle est présente dans ma campagne, elle est présente dans mon projet. Et c'est normal parce que Sabrina Sebaï, elle est aussi française que je suis français, même si je suis né en Picardie. Oui. À un moment donné, enfin, ça veut dire quoi?
Ça vous énerve?
Oui, parce que
pourquoi ça vous énerve?
Parce qu'à un moment donné, on a l'impression qu'il faut, au fond, faut en faire un trophée quand ça devrait être la normalité.
Oui, mais c'est ça.
Et ben moi, j'en fais pas un trophée.
Mais peut-être que les Français issus de la diversité en souffrent justement.
Eh bien, moi, je fais en sorte que mes porte-paroles, mes directeurs de campagne, les députés européens, ils soient issus de la diversité.
C'est la France, et que la France est diverse,
et que chacune et chacun a sa dignité, a son enrichissement personnel et son enrichissement apporté à la société.
Origines.
Et moi, je fais pas de différence.
Nadia.
Mais je me bats contre les discriminations.
Et je me bats
en faisant que tout le monde puisse être député européen ou tout le monde puisse avoir une place dans les élections.
Donc c'est bien pas à le revendiquer. De le préciser.
Méfiez-vous de ceux qui le revendiquent.
Nadia Chérif, avant de retrouver Céline Bory. Nadia Chérif, les transports, l'écologie, à vous la parole, vous avez 7 minutes. Je veux vraiment pas qu'on prenne du retard, s'il vous plaît. À vous la parole, Nadia Chérif.
Bonjour et merci.
Bonjour.
Pour aujourd'hui, parce que ça va éclairer, je l'espère, les Français et les Françaises. Et là, on parle de Français, de Françaises et de personnes aussi qui vivent en France et qui ne sont pas Françaises.
Bien sûr.
L'écologie, c'est important.
Qu'auront droit de vote aux élections locales.
Je le souhaite. L'écologie, c'est important. Et ce qui est sous-jacent
à l'écologie...
Et puis
surtout, il vient dire quelque chose de très important. Là, attendez, c'est une info, là.
Non, mais nous, on va le faire.
Vous allez le
D'accord.
faire. D'accord. Donc,
pas
vous, président de la République,
vous mettez cette mesure en place.
Ça, c'est une info.
C'est une info, très
bien. Et on va évidemment communiquer là-dessus.
Donc je termine, tu me laisses ça de 7 minutes.
Mais... Non, mais il vient de nous livrer une info extrêmement importante. Je ne peux pas passer à côté, je fais mon rôle de journaliste. Nadia Chérif.
Donc l'écologie, ce qui est sous-jacent, c'est les transports en commun. Quand on sait que dans des villes comme Paris, et où il y a aussi des banlieues et des zones de la diversité, de pauvreté, parce que moi, il y a diversité, mais il y a aussi la diversité de la pauvreté dans certaines banlieues, et notamment le 93. Et je vous invite à regarder sur Arte des mini-documentaires sur la Seine-Saint-Denis, dont un qui s'appelle Paname, c'est loin. Et Paname, c'est loin, c'est un court-métrage
très
magnifique,
très bien réalisé.
Clichy-sous-Bois, par exemple, c'est à 11 km de Paris. C'est une misère totale en termes de transport en commun. Ça fait 50 ans qu'ils attendent un métro, 50 ans, qu'il n'est toujours pas là. Et il va y avoir un métro en 2026, alors que les JO sont en 2024. Donc il va y avoir la fameuse ligne 16, qui est moquée parce que c'est une ligne de banlieue, et elle ne va pas avoir accès à la ligne 15 qui fait le tour de Paris et qui va avoir accès également à des lignes qui vont directement à Paris. Donc pour aller à Paris, de Clichy-sous-Bois par exemple, il faut 90 minutes. Alors moi je vous parle de transport, mais je vous parle d'écologie, je vous parle de culture, je vous parle d'attractivité. Personne ne veut aller dans cette ville. Aujourd'hui, Clichy-sous-Bois,
c'est votre question,
la ville de 2005.
S'il vous plaît.
Donc ma question, c'est surtout, qu'allez-vous faire pour que les transports en commun soient accessibles et donc l'écologie, la culture. Et que ce ne soit pas un
Yannick Jadot.
Écoutez, nous avons prévu dans notre projet, effectivement, d'investir 5 milliards d'euros dans les transports collectifs, 4 milliards d'euros aussi dans le ferroviaire, dans les trains du quotidien, parce que effectivement, c'est le cas en Seine-Saint-Denis, c'est le cas dans les quartiers nord à Marseille ou ailleurs. Ce sont des quartiers où on a ghettoisé, on y a mis toute la pauvreté, et puis après, on s'en va. Il y a à peine des médecins, on met les enseignants quand ils démarrent, on met les policiers quand ils démarrent, et on fait de la discrimination quand les gens mettent sur leur CV qu'ils viennent de ces quartiers-là. Eh ben, on va changer tout ça. On va investir massivement sur ces quartiers. Parce qu'on parle, mais dès 2022, dès notre arrivée, et c'est ce qu'on fait dans les mairies
qu'on gouverne aujourd'hui, c'est d'investir massivement à la fois sur le développement des transports et sur la facilitation de l'accès à ces transports, notamment pour les familles vulnérables ou pour les jeunes, à prix réduit ou à prix gratuit.
Oui, mais est-ce que vous pouvez également expliquer que... Moi, j'entends ce que vous dites, mais lorsqu'on parle avec... Moi, je parle avec le maire Olivier Klein de la ville de Clichy-sous-Bois qui fait un travail extraordinaire.
Oui.
Mais quand on parle de transport en commun et notamment de métro et d'autres transports qui pourraient aider et faciliter à la culture, à l'attractivité, etc., etc., il me dit, et à juste titre, nous avons les mains liées parce que c'est un budget du conseil régional, du département, etc. Et ça, les Français le savent pas vraiment.
Oui et non. Vous avez raison sur la compétence. Vous avez raison sur la compétence. Mais à partir du moment où l'État prend en main justement le désenclavement des quartiers, il y avait eu quand même un rapport très intéressant, le rapport Borloo sur les quartiers, c'est pas Borloo en lui-même, c'est qu'il avait associé tous les maires, quelle que soit leur couleur politique, il avait associé tous les acteurs sociaux, justement pour savoir comment on redonnait de la dynamique à tous ces quartiers. Et qu'on rendait... Parce que à la fois, plus personne ne veut y aller. C'est vrai que ce sont des conditions très très dures. Mais vous avez aussi des habitantes et des habitants qui sont fiers de leur quartier. Et qui ont envie, qui s'investissent dans les associations pour aider les gamins.
Mohamed Lechmache avec tout couleur.
Mohamed Lechmache qui a été...
J'ai travaillé avec lui.
Mais voilà.
Et donc c'est extraordinaire. Et notamment pendant la pandémie.
Vous avez parfaitement raison, ils ont été là quand beaucoup d'associations s'étaient retirées.
Oui.
Eux, ils ont fait le boulot pour faire de l'aide alimentaire, pour faire du soutien scolaire.
Je suis d'accord avec vous. Mais donc, aujourd'hui,
ce sera la dernière question.
Aujourd'hui, avec le prix de l'essence,
mais
ces
familles
qui ont une voiture et qui n'ont pas, qui peuvent,
ne peuvent pas prendre les transports,
c'est pour ça que l'écologie, elle est difficile à accepter
dans mon projet. Non, elle n'est pas difficile. Au contraire, c'est la solution. Je peux vous dire que quand je me déplace, y compris auprès de ces familles, y compris dans ces quartiers, on me dit pas « je suis écologiste ». On me dit « j'arrive pas à me chauffer l'hiver ». On me dit « mes enfants sont malades parce que l'appartement est insalubre ».
Vous vous rendez compte l'EDF et le prix de l'essence ?
On me dit « il y a des fuites d'eau ».
Et on parle d'écologie.
Vous avez raison. On me dit « il y a des fuites d'eau ».
Mais alors qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous proposez ?
Justement.
C'est ça, vous avez raison. Ok, mais qu'est-ce que vous faites, Yannick Jadot ?
Moi, je vous répondais pas.
Laissez-moi répondre.
Aux auditeurs qui vous
écoutent. Laissez-moi répondre. C'est pas la peine de me dire « vous dites quoi, vous me dites quoi » sans que je puisse répondre. 10 milliards d'euros sur l'isolation des logements pour les 2 millions de familles qui sont le plus dans la précarité énergétique et qui vivent dans des passoires énergétiques.
Merci.
Ça sera sans frais. On rénovera leurs logements, on rénovera leurs habitations sans frais. On construira 700 000 logements sociaux. On a 2 millions de familles dans notre pays qui pourraient accéder à un logement social, qui n'y accèdent pas. Et on baissera la TVA sur le bio pour que tout le monde, parce que dans toutes les familles, on veut que les enfants mangent bien. Et qu'on supporte pas la malbouffe dans les quartiers populaires comme dans les centres-villes.
Dernier chapitre, évidemment, avant de retrouver la fin de cette émission. Ça va très très vite. Hein. Céline Bory, merci à Nadia Cherif. Hein. Merci à vous, évidemment, et aux différentes questions qui sont, que beaucoup se posent. Céline Bory, bonjour.
Bonjour Adil.
Bonjour.
Journaliste, vous êtes journaliste. Quartier populaire, inégalité, allons à l'essentiel.
On va essayer. Bonjour Monsieur Jadot. Alors effectivement, je vais essayer de faire court parce que je sais qu'on a peu de temps. Une des questions qui se pose, une vraie problématique dans les quartiers populaires, c'est le problème du logement, donc dans la continuité de ce que disait Nadia. Logement insalubre, marchand de sommeil, suroccupation des logements. Qu'est-ce que vous proposez pour indiquer le problème? Qu'est-ce que vous faites pour ces 72 000 personnes, familles en tout cas, qui sont actuellement au DALO, droit au logement opposable, qui peuvent y prétendre, dont 60 000 en Ile-de-France? Et qu'est-ce que vous comptez faire aussi pour ces 30 000 personnes qui, à compter du 1er avril, risquent l'expulsion locative ?
Vous avez parfaitement raison. Je l'ai dit sur... parce que la question du logement, elle est lourde. Il y a des réponses immédiates. Quand je mets un chèque énergie, par exemple, pour les 6 millions de familles qui sont déjà en difficulté, qui bénéficient déjà du chèque énergie, c'est une bouffée d'oxygène. Mais ça résout pas les problèmes structurels. Ça résout pas les dépenses contraintes. Logement, énergie, carburant, alimentation. Donc effectivement, je l'ai dit, dans ce quinquennat, ça a été un massacre sur le logement social. On n'a jamais autant baissé la construction de logements sociaux. Donc nous, c'est 150 000 par an, 700 000. Deux, on fait la garantie universelle. C'est-à-dire que vous savez que beaucoup de familles n'arrivent pas à accéder au logement parce qu'on leur demande des cautions qui sont incompatibles avec leurs revenus. On met en place la garantie universelle sur les loyers, ça protège les locataires, ça protège les petits propriétaires. On met en place cet investissement, je l'ai dit, sur l'isolation des logements pour qu'ils soient confortables, qu'ils soient y compris isolés phoniquement. C'est important.
Et puis,
si vous me permettez, on change la loi SRU, parce que, alors ça ne concerne pas la Seine-Saint-Denis, parce qu'elle a déjà largement son quota, mais on passe la loi SRU sur les zones tendues de 25 à 30%. Et si les maires ne l'appliquent pas, ils perdent la compétence en matière de construction. Dans la loi SRU, il est prévu que l'État peut se substituer aux maires pour construire du logement social et pour faire qu'il y ait de la mixité sociale partout dans notre pays et pas simplement la concentrer notamment en Seine-Saint-Denis.
Est-ce que vous réquisitionnez les 3 millions de logements vacants ?
Alors, si on parle des logements, parce que vous savez, on se trompe, enfin moi, pour beaucoup travailler avec la Fondation Abbé Pierre, il y a la question de qu'est-ce qui est vacant ? Ce qui est vacant, c'est ce qui n'a pas été occupé pendant 2 ans, notamment, y compris sur les bureaux. Donc, il faut intervenir sur les bureaux et sur les logements vacants pour justement réquisitionner et donner la possibilité à des personnes d'y habiter. De la même façon, on met en place ce que j'appelle, moi, ce qui s'appelle le logement d'abord. Vous savez, c'est ce dispositif qui a bien fonctionné dans les autres pays, notamment pour les gens qui n'ont plus accès au logement. Ils passent un coup, c'est le logement d'urgence, un jour. Après, ils passent sur les 3 jours. Après, ils passent sur les CHRS. Après, ils passent sur les machins. Ça ne marche pas.
Et on s'assure.
Il faut donner un logement à toute personne qui habite. Vous savez, l'abbé Pierre disait un truc très important.
Oui.
Il disait, gouverner un peuple, c'est d'abord le loger.
Alors,
gouverner un peuple, c'est d'abord le loger. Et se loger, c'est ce qui permet le droit au travail, c'est ce qui permet le droit à la santé, c'est ce qui permet la dignité.
En espérant que ça profite d'abord aux habitants, parce qu'on voit la gentrification aussi qui se passe dans les quartiers populaires, notamment dans les communes très très proches de Paris. Deuxième sujet, tout à l'heure, vous avez parlé du rapport police-population. Le fait d'avoir rencontré des policiers qui vous parlaient de leurs conditions de travail. J'ai vu dans votre programme que vous parliez de l'interdiction, vous envisagez l'interdiction du LBD.
Oui.
Et le remplacement du GPN par une institution indépendante de la police.
Oui.
En revanche,
placée sous la défenseuse des droits.
Tout à fait. En revanche, vous parlez aussi beaucoup de discrimination et d'égalité dans votre programme. Qu'en est-il par rapport au problème du contrôle aux faciès ?
Ah, on supprime.
Ça, on l'entend pas.
Non, ça a toujours été dans notre projet,
On le supprime comment ? Parce qu'officiellement, il n'existe pas.
Oui, enfin, essayer qu'il supprime. Et puis, c'est le déclenchement automatique des caméras, dès qu'il y a un contrôle, et c'est le récépissé.
Donc le récépissé sera d'accord. Et
donc là, attendez, on a une info.
C'est clair.
Donc là, c'est le récépissé.
Vous avez un récépissé.
D'accord.
Qui justifie.
Ok, jusqu'ici. Non, mais attendez, ça, c'est une information. Voilà.
Oui, tout à fait. D'où ma question. J'ai quand même lu le programme avant de venir.
Mais moi aussi.
J'espère.
Je plaisante.
Quartier populaire, éducation populaire, vous en parlez dans votre programme. Vous parlez notamment de la revalorisation, la création du statut de bénévole.
Oui.
J'aimerais en savoir plus. En quoi ça consiste ?
Beaucoup d'associations tiennent aujourd'hui la société. Parce que, et c'est bien. Enfin, je veux dire, c'est pas juste une alternative à l'État. C'est bien que dans notre société, il y ait des services publics qui soient dynamiques et qu'il y ait une solidarité de type privé, au sens où elle n'est pas organisée par l'État, pour tenir. Parce
c'est
que
déjà
c'est ça
le cas.
Qui fait. Je sais que c'est déjà le cas. Donc, et on a abîmé cette solidarité, notamment en supprimant tous les emplois aidés qui permettaient à ces associations de fonctionner. Du club de foot à l'association de soutien scolaire.
Concrètement.
Donc, on remet 300 000 emplois aidés pour tenir les associations. Et le statut de bénévole, moi, je souhaite que ce soit discuté avec toutes les organisations, que ce soit la Fédération des acteurs de la solidarité, de l'éducation populaire. Je souhaite qu'on puisse valoriser l'engagement de bénévolat. Ça peut être des trimestres de retraite.
Ok.
Ça peut être
d'accord.
Des congés
30 secondes.
Négociés avec les entreprises.
Alors,
pour justement valoriser ce travail qui est
Yannick Jadot, s'il vous plaît.
Une dernière question. Vous avez dit que vous étiez un amoureux du sport. On parlait des discriminations et des inégalités. Ouais. Votre avis sur les hijabeuses et le fait qu'on veuille interdire la compétition à des jeunes femmes qui souhaitent faire du sport et qui souhaitent garder leur voile.
Mais non, c'est pas une question qui fâche. Je veux dire, la loi sur la laïcité, elle est claire.
Là, si elle a fait polémique, j'aime bien.
C'est pas parce qu'elle fait polémique qu'elle est légitime.
Vous, président, est-ce que vous laisserez ces femmes.
La question est claire. Vous, président.
La loi sur la laïcité interdit les signes religieux dans le cadre des services publics. Elle l'interdit pas
vous,
sur les
président
stades.
De la
donc,
République.
Donc, ces femmes ont le droit de jouer en fédération si elles le souhaitent.
Moi, j'ai vu, avec j'ai leur vu dans voile. Les compétitions internationales, quand vous voyez une jeune iranienne qui court, je trouve ça magnifique.
Donc, vous, chef d'État, ça vous pose aucun problème?
Non, c'est la loi sur la laïcité.
D'accord.
Bon, ben merci.
Merci.
Ben merci. En tout cas, ça va évidemment faire plaisir à beaucoup d'auditrices. Merci à Céline Bory donc pour
merci
les questions. Il me reste encore quelques secondes. Dites-moi, j'ai vu que vous disiez que la pollution de l'air était une priorité nationale. C'est pas des paroles un peu jetées comme ça, parce que très honnêtement, Yannick Jadot. Non, mais je vous vois. On fait de la radio. Je vois faire des petites grimaces. Mais ça veut dire quoi aujourd'hui, la pollution de l'air une priorité nationale? C'est lourd à entendre.
Bien sûr.
Mais c'est quoi?
Mais ça veut dire le développement des transports collectifs pour réduire les transports qui polluent. Ça veut dire, on a eu cette discussion.
Mais
sur...
comment. Non, mais attendez, ça, c'est des belles phrases.
Mais non,
comment
c'est pas
garantir. Des... Comment garantir aux Français, à la population, d'avoir de respirer mieux, de respirer l'air.
Enfin, ça fait.
Vous rendez compte du chantier colossal?
Mais c'est ce que nous faisons dans les mairies où nous sommes. Par exemple, en rendant piétonniers les accès des écoles pour que nos enfants ne souffrent pas, en le combat que je mène au niveau européen sur les normes, sur les pollutions automobiles.
Mais comment respirer un air qui ne nuise pas justement dans le quotidien, monsieur Nizado?
C'est en réduisant les transports par voiture, inutile. Quand je dis le covoiturage sera gratuit, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, le taux d'occupation d'une voiture, c'est 1,2 personnes. Si vous faites du covoiturage à 2, à 3, vous réduisez par 2 ou 3
vous êtes
le
pour
nombre
les voitures
de voitures.
On me fait signe qu'il faut rendre l'antenne. Vous êtes pour les voitures électriques?
Mais oui.
Oui.
Bien sûr.
D'accord.
Bien sûr.
Si vous êtes élu président de la République, vous stoppez, vous lancez la machine électrique?
Les voitures électriques. Ça veut dire je lance la machine électrique. Mais nous favoriserons, évidemment, le développement de la voiture électrique et le rétrofit.
Deux secondes.
Un million, nous mettrons en place un million. Vous savez ce que c'est le rétrofit?
Oui.
C'est-à-dire que vous avez une vieille voiture. Où vous êtes artisan, vous avez aménagé votre camionnette, et ben vous changez juste le moteur. Et nous soutiendrons ça, ça évite de changer de voiture.
Qui on change juste le moteur. Vous comme principal rival? D'une seconde.
Emmanuel Macron.
Emmanuel Macron, merci infiniment. Yannick Jadot, candidat écologiste, merci d'avoir été avec nous ici. Merci infiniment.
Merci à vous de votre invitation.
Bon courage, bon vent.
C'est bien, c'était sport, oui, on aime le sport, c'était sport.
C'était sport, c'est toujours comme ça dans les informés. Time Sport, justement, dans une poignée de minutes, justement, pour parler sport. C'est Bilal Lehmann qui reprend le contrôle de 20h à 21h. Merci à Yannick Jadot, merci à la réalisation à Yanis, à Giovanni, au Standard, merci à tous les auditeurs, merci aux débatteurs qui étaient venus ici, évidemment.
Merci.
Très tôt, donc, au débat. À demain, demain.
Vous les avez laissés parler, tant les débatteurs.
Bien sûr, heureusement d'ailleurs. Demain. Rendez-vous avec la ministre.
Ils rient tous sur votre prise d'antenne permanente.
La ministre Elimas qui sera avec nous ici demain. Donc, à votre place, on ne lâche rien. À demain avec autant de plaisir.
Merci. Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre.